Jeudi 13 juillet et vendredi 14 juillet, bonne fête nationale avec quelques heures d'avance à tous les expatriés français de la grande région de Victoria. Les célébrations du 14 juillet sont d'ailleurs le sujet de notre entretien du jour avec Claire Carlin, que nous aurons le plaisir de recevoir en studio un peu plus tard dans l'émission. Madame Carlin, présidente de l'Alliance française de Victoria jusqu'à tout récemment, nous parlera de la fête qui se tient ce soir 13 juillet au Parkside Hotel au centre-ville de Victoria. En attendant, cette édition du débrief pour les 13 et 14 juillet va commencer d'abord par une revue en règle des actualités du jour. C'est Alexis Gagnon au micro, je suis avec vous au cours de la prochaine heure. On lance la machine dans un instant avec la revue de presse internationale. À tout de suite. Merci d'écouter l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Le Débrief, votre rendez-vous info pour les 13 et 14 juillet, débute immédiatement avec la revue de presse des actualités internationales. Tout de suite dans le média indépendant Mediapart à l'adresse mediapart.fr, Trump accueilli avec les honneurs à Paris avant le 14 juillet. Donald Trump a été accueilli jeudi à Paris avec les honneurs par Emmanuel Macron, le président en français lors d'une cérémonie aux Invalides au premier jour d'une visite officielle pour le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Un mois après leur mano à mano viril de Bruxelles qui avait été abondamment commenté, les deux dirigeants qui étaient accompagnés de leurs épouses Melania Trump et Brigitte Macron se sont brièvement serré la main dans un climat plus détendu avant d'entrer dans la cour d'honneur des Invalides à Paris. Et cette visite officielle du président Trump à Paris à l'occasion du centenaire de l'intervention américaine dans la Première Guerre mondiale est couverte dans tous les médias, bien sûr, tous les médias français. Sur Mediapart, toujours, on a cet article écrit par Lénaïgue Bredou et Mathieu Suc. C'est intitulé « Trump à Paris, Macron rêve d'une puissance retrouvée ». En invitant le président américain au 14 juillet, après Vladimir Poutine et avant Benjamin Netanyahou, le président français Emmanuel Macron cherche à se poser en interlocuteur privilégié des grandes puissances, avec un sujet de concorde entre les deux chefs d'État, la lutte antiterroriste. Emmanuel Macron, peut-on lire dans cet article de Mediapart, a le goût des symboles. Sa présidence en est saturée depuis deux mois qu'il a rejoint le palais de l'Élysée. En invitant Donald Trump au défilé du 14 juillet, le chef de l'État tente de redonner à la France son vernis de grande puissance au nom d'un réalisme diplomatique affirmé. Le président américain, encore fragilisé par les dernières révélations sur l'aide russe à sa campagne électorale, a pourtant infligé une série de camouflets à l'Europe sur le climat ou encore sur le commerce. Mais la France et les États-Unis, peut-on lire dans cet article de Mediapart, affichent leur lune de miel sur un sujet crucial pour leurs deux présidents, la lutte antiterroriste. Le principe d'une visite du président américain avait été évoqué lors du précédent tête-à-tête entre les deux responsables à Bruxelles le 25 mai dernier en marge d'un mini-sommet de l'OTAN. Et cet article indique bien sûr que la sécurité est au niveau le plus élevé pour cette visite du président américain Donald Trump à Paris. Une visite qui en étonne plusieurs, surtout lors de l'annonce de la visite qui a été faite il y a quelques semaines. Donc Emmanuel Macron qui a décidé d'inviter Trump à Paris pour le 14 juillet. Et le justificatif, c'est le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale il y a 100 ans. Et dans les colonnes de Ouest-France, toujours à propos de cette visite de Donald Trump à Paris à l'occasion du 14 juillet, climat, Macron respecte la décision de Trump de quitter l'accord de Paris, autrement dit, de quitter l'accord sur le climat de 2015. Le président américain Donald Trump, embourbé chez lui dans des accusations de collusion avec la Russie, devrait avoir un répit fastueux à Paris où il est l'invité d'Emmanuel Macron pour les commémorations de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale et pour le défi défilé du 14 juillet. Reçu hier à Paris, Trump a un programme chargé, matinée avec les personnels civils et militaires américains, cérémonie militaire aux Invalides, entretien à l'Élysée avec le président Macron et dîner à la Tour Eiffel. Et il faut descendre un peu plus bas dans cet article qui prend la forme d'une chronologie de cette visite heure par heure du président Trump. Il faut descendre plus bas dans cet article donc pour retrouver cette fameuse déclaration assez étonnante finalement du président Macron. Sur le climat, nous connaissons nos désaccords. Je respecte la décision du président Trump de se retirer de l'accord sur le climat. Donc, déclaration qui n'est pas très encourageante pour les partisans d'une lutte au changement climatique. Macron qui semble plutôt tempérer les ardeurs des membres du G20 qui, il y a à peine une dizaine de jours, étaient réunis derrière leur volonté de combattre les changements climatiques. Là, on a plutôt cette déclaration de Macron qui dit respecter la décision de Trump de renoncer à l'accord de Paris sur le climat. Et pour rester justement sur la thématique de l'environnement, et toujours dans les colonnes de West France, record de personnes tuées en défendant l'environnement en 2016. Il n'a jamais été aussi dangereux de défendre l'environnement, selon un rapport publié cette semaine par l'ONG Global Witness. Selon cette organisation non gouvernementale, 4 personnes par semaine, soit 200 pour toute l'année, sont mortes en protégeant la nature d'industries comme les compagnies minières, forestières ou agricoles. Au moins 200 personnes ont été tuées en 2016 dans le monde en défendant l'environnement face à des projets miniers, forestiers ou agricoles. Un nombre record, indique l'organisation Global Witness dans un rapport publié jeudi. Le Brésil, 49 morts, la Colombie, 37 morts, les Philippines, 28 morts et l'Inde, 16 morts sont les pays où cette ONG a dénombré le plus de victimes parmi les personnes engagées dans la protection de terres, de forêts et de rivières. La bataille pour la protection de la planète s'intensifie rapidement et son prix se compte en vie humaine, a déclaré Ben Leather, un responsable de l'organisation Global Witness. Et de plus en plus de gens n'ont pas d'autres options que de s'opposer au vol de leurs terres et à la détérioration de leur environnement, a-t-il complété. Vous trouverez cet article dans le portail de West France à l'adresse westfrance.fr. On va se tourner maintenant vers le portail de RFI à l'adresse rfi.fr, vers un retour annoncé des Américains en Libye. En Libye, peut-on lire, c'est une première. Des sources militaires de l'Est libyen font état d'une rencontre cette semaine entre le maréchal Haftar et le chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Les États-Unis semblent étudier une nouvelle approche diplomatique par un soutien possible à l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar. Cette rencontre entre Américains et Libyens annonce un retour en force des États-Unis dans ce pays qu'ils avaient pratiquement abandonné depuis 2012 suite à l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi. C'est le commandement militaire de Khalifa Haftar qui a confirmé cette rencontre, indiquant que la délégation américaine était composée d'un bon nombre de responsables politiques et militaires. AFRICOM n'a pas encore dit mot sur cette rencontre, précise cet article de RFI. La dernière image diffusée sur le site du commandement militaire américain pour l'Afrique est datée du 23 mai, où Thomas Waldhauser, chef d'AFRICOM, et Peter Baudet, ambassadeur des États-Unis à Tripoli, s'affiche avec le premier ministre Fayez al-Sarraj. Cette rencontre a eu lieu dans une base de l'Est, à Benghazi, et elle coïncide avec des révélations américaines faisant état d'un plan en cours de finalisation à Washington pour une nouvelle approche politique, diplomatique et militaire pour la Libye. La Libye qui a été détruite et réduite au chaos civil et politique. On a beaucoup d'instabilité en Libye et c'est, selon plusieurs observateurs, le résultat de la campagne qu'a menée l'Occident en Libye en 2012, campagne que pilotaient la France et la Grande-Bretagne notamment, et qui a mené à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Alors voilà, pour les dernières nouvelles concernant la Libye, c'est sur sur le portail de RFI. On va se transporter maintenant dans le fil de l'agence France Presse à propos du Brésil. Condamné, Lula veut être candidat à la présidentielle brésilienne de 2018. Alors voilà, instabilité politique croissante au Brésil depuis l'expulsion de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff qui a été victime d'un coup d'État parlementaire l'année dernière. Et depuis, ça va de mal en pis. L'ex-président de gauche, Lula, a annoncé jeudi au Brésil être toujours dans le jeu et vouloir se présenter à la présidentielle au Brésil en 2018, malgré sa condamnation à près de 10 ans de prison qui assombrit ses perspectives de retour au pouvoir. Se montrant combatif dans sa première réaction à sa condamnation mercredi, condamnation à 9 ans et demi de prison pour corruption et blanchiment d'argent, l'ancien chef de l'État brésilien a dénoncé ceux qui sont en train de détruire la démocratie de son pays. Luiz Inácio Lula da Silva, son nom complet, va contester en appel sa condamnation et il dénonce un état de quasi-exception au Brésil lors d'une conférence de presse à Sao Paulo. Il a affirmé être toujours dans la course présidentielle, confirmant pour la première fois une ambition pour le scrutin de la fin 2018. On reste en Amérique du Sud, cette fois dans les colonnes du journal Le Monde. La mort de centaines d'enfants sous tutelle de l'État indigne le Chili. La présidente Michelle Bachelet récuse les accusations contre son ancienne ministre de la Justice, accusée de négligence inexcusable. C'est un article que signe dans Le Monde Christine Legrand. La mort entre janvier 2005 et juin 2016 de 1313 enfants et adolescents placés sous la tutelle du Service national des mineurs provoque une tempête politique au Chili à quelques mois de la présidentielle du 19 novembre. Le scandale n'est pourtant pas nouveau, précise la journaliste du journal Le Monde. Le nombre exorbitant de victimes avait été révélé le 3 octobre l'année dernière par un média. Le détonateur avait été la mort le 11 avril d'une fillette de 11 ans, Lisette Villa, décédée par asphyxie suite à la maltraitance de la part de deux responsables d'un des foyers de l'institution qui prétendait contrôler une crise de colère de l'enfant. La présidente socialiste Michelle Bachelet, au pouvoir depuis 2014, après un premier mandat entre 2006 et 2010, s'est entretenue mardi 11 juillet avec les présidents de la Cour suprême, de la Chambre des députés et du Sénat pour analyser la crise qui s'est déclarée au sein de cette institution qui a pour vocation de protéger les enfants et qui est responsable de quelques 20 000 enfants en tout. Une commission, continue cet article, a estimé que le personnel de ce type de foyer n'était absolument pas qualifié, les infrastructures déplorables et les ressources financières insuffisantes. Si vous voulez approfondir, c'est dans le journal Le Monde, la mort de centaines d'enfants sous tutelle de l'État indigne le Chili. Toujours dans le fil de retard, décès de l'opposant chinois Liu Xiaobo. L'opposant chinois Liu Xiaobo, lauréat du prix Nobel de la paix en 2010, est décédé à l'âge de 61 ans, annoncent les autorités de Shenyang, où il était hospitalisé pour un cancer du foie en phase terminale. Plusieurs de ses organes étaient atteints et il a été impossible de le sauver, précisent les services juridiques de cette ville du nord-est de la Chine dans un bref communiqué diffusé sur Internet. Condamné en 2009 à 11 ans de prison pour subversion après avoir participé à la rédaction de la Charte 08, une pétition qui demandait d'importantes réformes démocratiques, Liu Xiaobo avait été transféré fin juin de sa prison à l'hôpital de Shenyang. Pour le comité Nobel, le gouvernement chinois porte une lourde responsabilité dans son décès prématuré. Nous jugeons très troublant que Liu Xiaobo n'ait pas été transféré où il aurait pu recevoir un traitement médical adéquat avant d'arriver en phase terminale, déplore Berit Rice-Anderson, président du comité Nobel, dans un courrier électronique transmis à l'agence Reuters. Et on va clore cette revue de presse internationale en se transportant du côté de l'hebdomadaire Jeune Afrique à l'adresse jeuneafrique.com. La piraterie fait un retour en force au large de la Somalie. Face à la résurgence de la piraterie dans le golfe d'Aden et dans le bassin somalien, le groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes, le GCPSC, a appelé au maintien de la force navale européenne. Le gouvernement somalien cherche également des moyens pour renforcer ses propres dispositifs sécuritaires, peut-on lire dans cet article de Jeune Afrique. L'accalmie a duré 5 ans, peut-on lire, jusqu'à une série d'attaques en mars et avril dernier. Selon un document diffusé à la conférence de Maurice, à laquelle étaient présents plus de 200 représentants de gouvernements, d'institutions internationales et d'ONG du 5 au 7 juillet, la force navale européenne a recensé 6 attaques de pirates somaliens entre le 13 mars et le 22 avril. Le rapport précise que toutes les attaques, dont la plupart avaient pour but une prise d'otage, ont été déjouées et n'ont fait aucun blessé. Ce qui met en exergue, selon le document, l'efficacité des dispositifs de communication, d'alerte et de coopération internationale déployés depuis 2009 contre la piraterie maritime. Simon Church, directeur du Centre de la sécurité maritime de la Corne de l'Afrique, précise toutefois à Jeune Afrique dans cet article que les pirates ne sont plus aussi organisés que dans le passé et que les dernières attaques sont plutôt l'œuvre d'opportunistes. Voilà, c'est un article de fond donc qui se poursuit sur plusieurs lignes. Si vous voulez en faire la lecture, c'est sur le portail de Jeune Afrique à l'adresse jeuneafrique.com et c'est là-dessus qu'on va refermer cette revue de presse internationale pour les 13 et 14 juillet. Restez à l'antenne du 107.9 FM. Dans un instant, on vous revient avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. L'info se poursuit dans cette édition des 13 et 14 juillet du débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Alexis Gagnon en votre compagnie. C'est le moment de passer aux nouvelles du Canada. On va tout de suite débuter avec la nouvelle du jour. Peut-être êtes-vous déjà au courant, Julie Payette, l'astronaute, est nommée gouverneure générale du Canada. C'est dans le fil de la presse canadienne et dans tous les médias du pays. Le premier ministre Justin Trudeau confirme la nomination de l'astronaute Julie Payette. Le premier ministre Justin Trudeau confirme la nomination de l'astronaute Julie Payette comme gouverneur général du Canada, une personne incontestablement qualifiée, a-t-il déclaré, pour occuper cette haute fonction. Visiblement émue, Julie Payette a déclaré qu'il s'agissait non seulement d'une chance extraordinaire, mais de sa deuxième chance de servir à nouveau son pays. Sa nomination respecte la tradition d'alternance entre francophones et anglophones, une tradition qui est en vigueur depuis le milieu du 20e siècle. Le mandat de l'actuel gouverneur général du Canada, David Johnston, avait été prolongé de 2 ans par l'ancien premier ministre Stephen Harper, rappelle cet article de la presse canadienne. Ce mandat venait à échéance en septembre. Julie Payette, qui prendra sa place à l'automne, deviendra la 29e personne à s'installer à Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général à Ottawa. Et cet article rappelle que Julie Payette est née à Montréal. Elle a été la 2e Canadienne à voyager dans l'espace et la 1e Canadienne à visiter la Station spatiale internationale et à y travailler. Son premier vol remonte à 1999 alors qu'elle a pris part à la mission STS-96 à bord de la navette spatiale Discovery. 10 ans plus tard, en 2009, Julie Payette agissait en tant qu'ingénieure de vol au sein de l'équipage de la mission STS-127 dans la navette spatiale Endeavour. Donc voilà pour les infos entourant la nomination de Julie Payette au poste de GG, gouverneur général du Canada. On va rester dans le fil de la presse canadienne pour vous faire mention de cette nouvelle. La Cour supérieure refuse de geler les avoirs d'Omar Kader. La Cour supérieure de l'Ontario a rejeté jeudi la demande d'injonction présentée par la veuve d'un soldat américain qui voulait faire geler au plus tôt les avoirs d'Omar Kader. Tabitha Spears souhaite qu'un jugement prononcé dans l'État du Utah il y a 2 ans soit appliqué au Canada. Ce jugement ordonne à Omar Kader de verser une compensation de 134 millions de dollars US à Tabitha Spear et à un autre soldat blessé en Afghanistan en 2002. Le sergent Chris Spear avait été tué lors d'une opération au cours de laquelle le jeune Omar Kader, enfant soldat alors âgé de seulement 15 ans, avait été blessé puis arrêté avant d'être emprisonné et torturé à Guantanamo pendant des années pour crimes de guerre. Donc voilà, cette nouvelle paraît dans le fil de la presse canadienne et ça nous offre une transition vers ce texte d'opinion qui paraît dans le journal Le Devoir en date du 13 juillet. C'est signé par l'avocate à la retraite Huguette Gagnon. C'est à propos de l'enfant soldat Omar Kader, aujourd'hui âgé de 30 ans. Exercice de projection pour comprendre l'affaire Omar Kader. C'est le titre de cette tribune de l'ex-avocate. Et celle-ci écrit « Je crois que les réactions négatives actuelles quant au dédommagement accordé à Omar Kader sont dues à une méconnaissance de la situation. Voici l'exercice que je propose, écrit-elle sexuelle, je vous demande de supposer que la situation a été vécue par votre propre enfant. Supposons que le nom de famille de votre enfant est Tremblay, son père est un Québécois dit de souche, entre guillemets, et vous êtes une Gagnon, québécoise de souche, entre guillemets, également. Son père part en Afghanistan avec votre enfant mineur en vous déclarant qu'il va faire du tourisme en Italie. À un moment donné, vous apprenez que votre enfant a participé à une bataille en Afghanistan, qu'il a été gravement blessé, qu'il a été détenu à Bagram, une prison tristement célèbre de l'Afghanistan, et qu'il est maintenant détenu à Guantanamo, sur l'île de Cuba, la base américaine. Vous cherchez alors à sortir votre enfant de cet enfer, écrit l'ancienne avocate. Vous apprenez que le Canada a signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits des enfants, notamment le protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, un protocole qui a été signé par le Canada le 5 juin 2000. Pleine d'espoir, vous vous adressez au Premier ministre du Canada, à d'autres politiciens, à votre député, etc., etc., en leur demandant de respecter les engagements pris par le Canada et de tout faire pour sortir votre enfant de Guantanamo. Or, le gouvernement canadien ne fait rien pour votre enfant, et pire, vous apprenez que des représentants de votre gouvernement ont interrogé votre enfant alors qu'ils savaient que, pendant 3 semaines, il avait été soumis à la torture par les autorités américaines. Pendant 3 semaines, les Américains ont réveillé votre enfant toutes les 3 heures, l'ont transféré de cellule en cellule plusieurs fois par jour, dans le but, selon les mots de la Cour suprême du Canada, d'amoindrir sa résistance lors des interrogatoires. Vous constatez alors que le Canada a contrevenu à d'autres traités internationaux qu'il a signés et à la Charte des droits et libertés du Canada. Le gouvernement canadien ne fait toujours rien pour votre enfant et vous apprenez que votre enfant sera devant une commission militaire de Guantanamo qui accepte en preuve les déclarations que votre enfant a faites sous la torture. Avant le simulacre de procès organisé à Guantanamo, vous pouvez enfin parler à votre enfant et celui-ci vous dit qu'il n'a tué personne et qu'il ne veut pas plaider coupable aux accusations qui sont portées contre lui. Devant la perspective qu'il soit détenu jusqu'à la fin de ses jours à Guantanamo s'il ne plaide pas coupable, vous lui dites de plaider coupable afin que son avocat puisse négocier son retour au Canada. Alors voilà, c'est l'exercice de projection que propose l'auteur de cette tribune dans le journal Le Devoir. Elle est avocate à la retraite, son nom Huguette Gagnon, et ça peut vous aider à comprendre la situation de l'enfant soldat Omar Kader, endoctriné par son père dès le plus jeune âge et poussé à se battre en Afghanistan dès l'âge de 13 ans. Il a été capturé à 15 ans et par la suite détenu en dehors de toute forme de droit international dans le goulag de Guantanamo, qui est littéralement un camp de concentration. Et cette tribune très bien écrite par Huguette Gagnon, je le disais, se trouve dans le journal Le Devoir à l'adresse ledevoir.com. Nous allons revenir un bref instant dans le fil de la presse canadienne. Magasinage en ligne, le Bureau de la concurrence du Canada émet des conseils. Alors que plusieurs Canadiens cherchent de bonnes aubaines sur Internet pour leurs vacances d'été, le Bureau de la concurrence du Canada les invite à porter une attention particulière aux prix affichés en dollars. Le Bureau de la concurrence prévient que les prix annoncés sur le web ne sont pas nécessairement affichés en dollars canadiens et qu'une conversion de devise inattendue peut ainsi déséquilibrer un budget. L'organisme souligne que certains sites web omettent d'identifier clairement la devise des prix annoncés. Le bureau explique que même si le symbole dollar est utilisé, cela ne garantit pas que le prix indiqué soit en dollars canadiens. Donc, méfiance sur les sites qui ne sont pas clairs quant à la devise du prix affiché. C'est dans le fil de la presse canadienne. On va maintenant revenir dans le journal Le Devoir, un article signé par le journaliste Dave Noël à Québec. Une bombe vieille de 258 ans, une bombe qui remonte à la conquête, découverte dans le Vieux-Québec. C'est l'article que signe Dave Noël dans Le Devoir. Le boulet de canon de 1759 que l'on a découvert au cœur du Vieux-Québec est une bombe potentiellement active. Le projectile lancé par les troupes du général Wolfe est désormais entre les mains des artificiers des forces armées canadiennes afin d'être désamorcé. L'artefact a été trouvé à plusieurs mètres de profondeur sous la rue Hamel dans le Vieux-Québec, à l'ombre des murs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Après avoir extirpé le projectile pesant près de 200 livres, les employés de la compagnie d'excavation région La Fontaine ont fièrement posé à ses côtés. Et cet article explique que les chances que ce projectile explose étaient très, très faibles. Néanmoins, c'est une photo qui n'aurait pas dû être prise. Vous aurez tous les détails sur ce boulet de canon qui remonte à la conquête britannique de 1759 trouvée dans le Vieux-Québec. C'est dans le journal Le Devoir sous la plume de Dave Noël. Alexandre Panetta, dans le fil de la presse canadienne, nous apprend que Trudeau va rencontrer le vice-président américain. Le premier ministre Justin Trudeau participera à une rencontre bilatérale avec le vice-président américain Mike Pence lors d'une conférence des gouverneurs des États américains prévue plus tard cette semaine. Le premier ministre Justin Trudeau participera à une rencontre bilatérale avec le vice-président américain Mike Pence lors d'une conférence des gouverneurs des États américains prévue ces jours-ci. Justin Trudeau et Mike Pence seront au Rhode Island pour l'événement qui implique plus d'une trentaine de gouverneurs et des rumeurs circulaient à l'idée que la délégation canadienne allait s'entretenir avec un représentant haut placé de l'administration Trump. Ce représentant serait Mike Pence et c'est ce qu'aurait confirmé une source proche du bureau du premier ministre à la presse canadienne. Justin Trudeau est aussi le sujet de la chronique de Chantal Hébert dans le magazine L'Actualité, cet hebdomadaire qui paraît à l'adresse l'actualité.com. Justin Trudeau et l'alternance. C'est une nouvelle chronique de Chantal Hébert en date du 10 juillet. La crédibilité du premier ministre Justin Trudeau en a pris un coup avec la nomination avortée de Madeleine Meilleur, écrit-elle. D'ici la fin de l'année, le premier ministre devra procéder à deux nominations qui seront cruciales, avertit-elle. Personne ne devrait avoir raison de douter de l'attachement de Justin Trudeau à la dualité linguistique canadienne, écrit Chantal Hébert dans cette chronique. Ce fleuron de la couronne du Parti libéral qu'il dirige constitue une pièce maîtresse de l'héritage politique de son père. Et pourtant, aucun premier ministre récent ne s'est aussi souvent mis les pieds dans les plats sur le terrain linguistique que Justin Trudeau depuis son arrivée au pouvoir, souligne Chantal Hébert. Il y a eu notamment ses refus inusités de répondre en français à un locuteur francophone lors d'un rassemblement ontarien et de répondre en anglais à un anglo-québécois lors d'un passage dans les cantons de l'Est au Québec. Il y a eu aussi le raccourci saugrenu qu'il a offert en réponse à une question sur le bien fondé de désigner Ottawa, à titre de capitale fédérale de l'État canadien, comme ville officiellement bilingue. Justin Trudeau, rappelle la chroniqueuse, avait répliqué en demandant si, dans une telle éventualité, la ville de Gatineau voisine était elle aussi disposée à se déclarer bilingue. Plus récemment encore, il y a eu la tentative ratée de nommer Madeleine Meilleur, une ancienne ministre libérale ontarienne, comme commissaire aux langues officielles. Le poste requiert une indépendance totale à l'égard du parti au pouvoir, souligne-t-elle. Madeleine Meilleur, qui a quitté Queen's Park il y a à peine un an, n'avait pas fait l'ombre d'un début de purgatoire de la politique quand elle a posé sa candidature. Selon l'ancien commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, le fiasco qui entoure son remplacement est symptomatique d'un manque d'intérêt du gouvernement de Justin Trudeau pour ce qui concerne la politique des langues officielles. D'ici la fin de l'année, Justin Trudeau devra procéder à deux nominations phares qui permettront de mieux mesurer l'importance qu'il accorde à la dualité linguistique canadienne, écrit Chantal Hébert dans cette chronique. Le premier ministre devra trouver un remplaçant au gouverneur général, David Johnson. C'est maintenant chose faite. On sait que c'est Julie Payette qui coiffera maintenant cette casquette de GG au Canada. Et deuxième nomination importante, il devra assurer la succession de la juge en chef de la Cour suprême, Beverly McLaughlin. Dans un cas comme dans l'autre, la coutume voudrait que ces deux postes soient confiés à des francophones, écrit Chantal Hébert. Pour ce qui est du gouverneur général, on respecte scrupuleusement l'alternance entre francophones et anglophones depuis le début du règne de la reine Élisabeth II en 1952. Dans le cas de la Cour suprême, poursuit-elle plus bas dans sa chronique, un seul premier ministre dans l'histoire récente du Canada a fait entorse à la règle de l'alternance. En toute fin de parcours, en 1984, Pierre Trudeau avait choisi Brian Dixon pour succéder à Bora Laskin comme juge en chef. Là encore, Justin Trudeau pourrait peiner à trouver un équilibre entre son ambition de faire une plus large place aux Autochtones et aux femmes et et le respect de l'alternance entre francophones et anglophones. Le juge en chef de la Cour suprême est habituellement choisi parmi les 8 juges qui y siègent déjà. On ne parachute normalement pas un juriste de l'extérieur dans ce poste qui demande une connaissance certaine du fonctionnement du plus haut tribunal du pays. Si le premier ministre voulait à tout prix choisir parmi les membres de la Cour une femme et le faire dans le respect de l'alternance, il n'aurait d'autre option que de nommer la juge Suzanne Côté, les 2 autres juges québécois étant des hommes. Mais Mme Côté ne compte même pas 3 ans d'ancienneté à la Cour suprême. Beverly McLaughlin y était depuis 11 ans lorsqu'elle est devenue juge en chef. Voilà, c'est en substance la chronique que signe Chantal Hébert dans le magazine L'Actualité à l'adresse l'actualité.com et ça concerne l'attention qu'accorde Justin Trudeau aux francophones dans le cadre de la politique de dualité linguistique nationale. Je vous invite par ailleurs dans cette revue de presse nationale à vous rendre sur le portail de ricochet.media, ce portail indépendant. On a un bel article sur l'admiration invraisemblable et irrationnelle qu'on accorde de plus en plus au Canada aux entrepreneurs et à l'entrepreneuriat en général. Ça s'intitule « La foi néolibérale à l'heure de l'abstraction virtuelle cotée en bourse ». C'est un titre un peu sarcastique. L'auteur... Milan Bernard se demande pourquoi on glorifie tant les entrepreneurs ces années-ci au Canada, tant dans les médias que dans la culture populaire. C'est sur le portail de Ricochet, je le rappelle. Et voilà qui conclut cette revue de presse canadienne dans cette édition des 13 et 14 juillet. Merci de demeurer à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale. Dans un instant, je vous reviens avec les nouvelles de Colombie-Britannique. À tout de suite. Nouvelle de Colombie-Britannique, vous vous doutez bien qu'on va débuter avec les actualités entourant les incendies qui ravagent l'intérieur de la province. Tout de suite, cette nouvelle aperçue sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Le retour du vent laisse craindre le pire en Colombie-Britannique. C'est un article qui a été publié en début d'après-midi en ce jeudi 13 juillet. Je vous en lis quelques lignes. Des rafales prévues en fin de semaine en Colombie-Britannique pourraient propager les feux de forêt existants à de nouveaux secteurs qui n'étaient pas encore touchés, peut-on lire. Plus de 14 000 personnes sont toujours évacuées. Un front froid va arriver ce week-end, amenant des vents plus forts, a indiqué Darren Campbell, directeur du Centre d'opération des urgences pour la région de Caribou. Ce front froid semble se diriger vers l'ouest de la région à Chilcotin et North Caribou, une zone qui n'avait pas encore été très affectée par les feux cette saison. Alors un front froid, c'est généralement une bonne nouvelle, mais le vent, si la présence du vent est constatée, ça n'est pas forcément positif. Darren Campbell, peut-on lire dans cet article de Radio-Canada, explique que les pompiers se préparent déjà à un revirement de situation depuis plusieurs jours. Les pompiers ont notamment eu recours à un incendie contrôlé mercredi soir près de la ville de Williams Lake afin de débroussailler le terrain et de ne pas nourrir les éventuelles flammes. Les 10 000 habitants de la ville de Williams Lake sont toujours sous le coup d'une alerte d'évacuation et doivent être prêts à partir à tout moment. Le maire Walt Cobb se réjouit du répit offert à sa municipalité grâce à une météo un peu plus clémente ces 2 derniers jours. Mais il est également bien conscient que le danger est toujours présent, peut-on lire dans cet article de Radio-Canada. La situation peut changer très rapidement en fonction de la foudre ou de la direction des vents. Un porte-parole du district régional de Caribou, Al Richmond, confirme que la météo n'a pas été aussi mauvaise que prévu au cours de la nuit de mercredi à jeudi, mais que le vent a propagé les flammes en direction d'une zone rurale au sud-ouest de Williams Lake. 2 nouveaux ordres d'évacuation ont donc été donnés, mais les autorités ne sont pas encore en mesure de comptabiliser le nombre de personnes concernées. Environ 11 000 km² de la région sont désormais sous le coup d'une alerte ou d'un ordre d'évacuation. En une semaine, quelques 455 km² de forêt et de terre sont partis parti en fumée en Colombie-Britannique, peut-on lire dans cet article du portail britanno-colombien de Radio-Canada. Je rappelle le titre, « Le retour du vent laisse craindre le pire en Colombie-Britannique ». C'est un article signé par l'équipe de rédaction. Et toujours sur le portail de Radio-Canada, un article qui s'adresse aux touristes venant d'autres provinces et d'ailleurs dans le monde, touristes qui désirent passer leurs vacances en Colombie-Britannique. Le titre, « Ce qu'il faut savoir avant de se rendre en vacances en Colombie-Britannique ». Sachant bien sûr que la province est la proie des flammes dans certains secteurs et que l'état d'urgence est actif. Alors que d'importants incendies continuent de ravager l'intérieur de la Colombie-Britannique, peut-on lire dans cet article de Radio-Canada, les touristes qui avaient prévu de se rendre dans la province s'interrogent. Faut-il revoir ou repousser ces projets? Élément de réponse proposé dans cet article. Malgré les importants feux de forêt dont la Colombie-Britannique est le théâtre ces derniers jours, les professionnels du tourisme oscillent entre invitation ouverte et prudence. Monica Dickinson de l'Office de tourisme de Kamloops explique que le temps est revenu au beau fixe ce mardi après plusieurs jours en fumée. La majorité des routes sont ouvertes, rappelle-t-elle également. Il n'en reste pas moins que l'épaisse fumée des feux se propage en fonction du vent et peut être potentiellement incommodante pour ceux qui souffrent de problèmes respiratoires. La réalité, c'est que la Colombie-Britannique est enfumée. Il faut s'organiser en fonction de cela, a expliqué Sarah Peterson de l'Office de tourisme de Revelstoke. Je recommanderais donc de vérifier auprès de son lieu de villégiature que tout est en ordre, a ajouté pour sa part Rhonda Svihan de l'agence de voyage Paul Travel. Donc voilà, différents intervenants du milieu touristique sont interrogés dans cet article de Radio-Canada, ce qu'il faut savoir avant de se rendre en vacances en Colombie-Britannique. Et les feux de forêt ne concernent pas que l'intérieur de la province. On a eu une petite frousse ici dans la région du sud de l'île de Vancouver. Fire destroys cabin along Souk Road. 20 to 30 spot fires in brush. Donc un feu de broussailles, un feu de buisson s'est déclaré le long de la route menant à Souk dans la journée d'hier, le 12 juillet. Je vous lis quelques lignes d'un article paraissant en résumé sur le portail du Times Colonist, notre quotidien local. Cet article indique que 25 pompiers ont dû affronter cet incendie qui s'est déclaré en bordure de la route. Plus de peur que de mal, indique cet article. En substance, il a pu être contrôlé. Il s'agissait d'un incendie qui ravageait une superficie d'1,5 acre, précise-t-on dans cet article. Donc, si vous voulez consulter ça, c'est dans les médias Vic News et Times Colonist. Je répète le titre. Fire destroys cabin along Souk Road. 20 to 30 spot fires in brush. Donc, il y avait jusqu'à 20 à 30 foyers d'incendie et les pompiers ont réussi à maîtriser la situation. Et pour clore cette revue de presse provinciale des nouvelles de Colombie-Britannique, je vais vous proposer la lecture d'une tribune qui paraît dans le journal Le Devoir. C'est une tribune qui est signée par Louis Massicotte, professeur de sciences politiques à l'Université Laval au Québec. Et le professeur Massicotte s'est intéressé à notre province et surtout à nos élections récentes, le scrutin du 9 mai, qui a connu par la suite un roman feuilleton jalonné de nombreux développements menant à la défaite en chambre du gouvernement de la première ministre sortante, Christy Clark, fin juin. C'est une saga qui est assez exceptionnelle dans notre histoire parlementaire canadienne. Et le professeur Massicotte nous livre son analyse de cette situation et se réjouit en substance de la décision qu'a prise la lieutenante gouverneure générale de la Colombie-Britannique, Judith Guichon. Décision dans laquelle elle a refusé à la première ministre sortante le déclenchement d'élections et décision donc qui l'a vu accorder le pouvoir au NPD et au Vert qui forment maintenant un groupe de coopération à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique. Donc vous avez une analyse véritablement édifiante et très intéressante dans cette tribune qui s'intitule « Du bon usage des prérogatives royales ». Et les prérogatives royales ici réfèrent bien sûr au rôle que joue la lieutenante gouverneure générale Judith Guichon dans notre système parlementaire. C'est fascinant, donc c'est sur le portail Le Devoir à l'adresse ledevoir.com sous la plume du professeur Louis Massicotte. Voilà qui conclut cette revue de presse des actualités de Colombie-Britannique. On continue de suivre très attentivement la situation des incendies de forêt, bien sûr. On en reparlera dans l'édition de demain, 14 juillet. Mais pour l'heure, on va se rendre à l'interview du jour. J'ai le plaisir de retrouver en studio Claire Carlin, présidente émérite de l'Alliance française de Victoria, à propos d'un événement qui se tient ce soir même, 13 juillet. Vous devinez de quel événement je parle, bien sûr. C'est le Bastille Day, la célébration de la fête nationale des Français, les expatriés français et tous les francophiles, tous les francophones de la grande région de Victoria sont invités au Parkside ce soir entre 17 et 19 heures pour fêter la France. Et je retrouve dans quelques instants Claire Carlin. À tout de suite.
Thank you.
Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 FM pour cette édition des 13 et 14 juillet. 13 et 14 juillet, si vous êtes ressortissant français, cela a une signification spéciale. On va parler du Bastille Day qui est célébré en grand ici à Victoria par les expats français. J'ai le plaisir de retrouver en studio Claire Carlin, présidente éméritus de l'Alliance française de Victoria. Bonjour Claire.
Bonjour Alexis.
Ravi de vous retrouver en studio. Donc on va redonner les infos vitales entourant cette célébration de ce soir, puisque en fait, avec un peu d'avance, on a 9 fuseaux d'horaires de différence avec Paris, donc on est synchrone avec Paris, on célèbre le 13.
C'est exactement cela. Alors, ce soir, du 5 à 7 heures, au Parkside Hotel, au 810 de la rue Humboldt, au centre-ville, nous serons dans leur belle salle City Club Lounge, au 8e étage.
Avec une belle vue.
Avec une très belle vue, et une vue sur l'Académie Sainte-Anne, qui est un lieu essentiel de la francophonie victorienne.
Claire, doit-on obligatoirement être français pour se rendre à cette célébration entre 5 et 7 au Parkside Hotel en cette soirée du 13 juillet?
Alexis, il n'est pas nécessaire d'être français pour participer aux activités de l'Alliance française en général. On accueille toujours les francophiles aussi bien que les francophones. Et ce soir, même les anglophones qui ne parlent pas français, même les anglophones qui ne s'intéressent pas aux faits français, tout le monde est le bienvenu. C'est toujours une fête très conviviale qu'on fête avec Français du Monde, une autre association francophone de Victoria, parmi les plusieurs associations
en collaboration.
En collaboration. Et puis, on a invité, comme on le fait souvent, des membres des autres associations.
Est-ce qu'il y a des allocutions? Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le fil, le déroulement?
Comme d'habitude, il y aura quelques petites allocations, probablement vers 5h30. Et nous avons l'honneur cette année d'accueillir François Biconel, le consul honoraire de France à Victoria, et qui va décerner nationalité française à deux nouvelles citoyennes.
Ah bon? Ça va se faire devant tous les participants, tous les ceux qui seront présents à cette cérémonie.
On fera une petite cérémonie de citoyenneté. Alors, je crois que François a déjà fait l'acte officiel auparavant, mais on voulait faire aussi cette cérémonie publique. Ça semble être un moment propice pour fêter la nationalité française de ces deux nouvelles françaises.
Magnifique, sûrement un moment émouvant, mais j'imagine qu'il y aura du champagne.
Il y aura tout ce que l'on veut dans le bar payant.
Dans le bar payant, d'accord.
Oui. Mais pour le billet de $20, on a pas mal à manger, n'est-ce pas? Le traiteur, oui. Truffles du Parkside fait d'excellentes amuse-bouches. Et il y aura aussi, bien sûr, de la musique live, en direct, surtout de la musique d'accordéon.
Alors, c'est un excellent moment, une occasion de rencontrer des francophones, des francophiles, de réseauter un petit peu et de fêter la France, ses valeurs. L'année dernière, ça s'était passé comment au Parkside? Est-ce que ça avait été un succès?
Oui, tout à fait. Il y avait plus de 80 personnes et on a vendu 2 billets et reçu des réservations pour un groupe encore plus grand cette année. L'année dernière, par contre, il y a eu une ombre, n'est-ce pas, sur la fête, parce que juste avant, les attentats de Nice ont eu lieu et nous l'avons su juste avant le commencement de la fête.
Et c'est venu assombrir la soirée.
Oui, mais on s'est dit que c'était très bien d'être ensemble, oui, et de vraiment de faire un acte de solidarité avec nos amis en France en ce moment-là.
En effet, l'actualité a été jalonnée d'attentats en France et en Grande-Bretagne depuis 2015. Est-ce qu'il y a des différences dans le programme cette année par rapport à l'année dernière, des petits ajouts, ou on suit la même formule?
C'est à peu près la même formule, mais on a une nouvelle présidente, Madame Melissa Parker, qui va se présenter à la communauté francophone à cette occasion. Comme d'habitude, on aura aussi une allocution de la part de Madame Danielle Thaler, la vice-présidente de France et du Monde,
qui était à l'antenne de CILS récemment à propos du dîner en blanc,
oui,
et qui compte parmi nos supporters, nos amis ici à CILS FM. Magnifique. Donc, ce soir, 13 juillet, entre 5 et 7, un peu de musique, l'occasion de fêter en compagnie de francophones, de francophiles, et bien sûr de crier liberté.
Voilà, c'est surtout un moment de grande convivialité et de voir une bonne partie de la communauté rassemblée.
En amont de ce Bastille Day, Claire, vous avez publié dans le dernier numéro du Réverbère une nouvelle chronique intitulée « Les origines de la fête nationale des Français ». C'est une chronique de quelques feuillets en pages 10 et 11. Est-ce que on peut en faire le résumé en quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors, j'avais fait une chronique l'année dernière au sujet de la prise de la Bastille. Et cette fois-là, je voulais aborder le sujet de la fête nationale française d'un angle un peu différent. Donc, j'ai mis l'accent sur les origines de la fête. En effet, au 19e siècle, le 19e siècle est responsable de beaucoup de nos façons de regarder en arrière l'histoire de France. Et c'était en effet en 1880 que on a que l'Assemblée nationale de l'époque a instauré cette fête de la Bastille.
Et est-ce qu'on fêtait la prise de la Bastille auparavant?
Pas vraiment. Il y a eu des moments au 19e siècle où on voulait faire acte de souvenir de la prise de la Bastille. Surtout vers 1848 et la soi-disant deuxième révolution, ou le moment où la monarchie de Louis-Philippe a été déposée en faveur de la deuxième République française. Mais en 1880, c'était surtout le souvenir de la fête de la Fédération que les législateurs ont voulu évoquer. Et la fête de la Fédération a eu lieu un an plus tard, un an après la prise de la Bastille en 1789. Alors en 1790, la fête de la Fédération était une fête plutôt bon enfant. Louis XVI, était toujours là, toujours en vie, à donner sa bénédiction à cette fête populaire. La foule était très présente, milliers de personnes. En 1880, les membres du Parlement qui voulaient mettre l'accent sur cette fête paisible plutôt que sur l'acte révolutionnaire plus violent de 89.
La Bastille était une prison et c'est un des temps forts.
Vraiment symbole de la monarchie et de l'état misérable du peuple. En 1880, les parlementaires ont pu mettre l'accent soit sur 89, soit sur 90, et la fête plus paisible.
Et à partir de ce moment, le 14 juillet a été la date sanctionnée par l'État comme celle du jour national.
Oui, tout à fait. Alors, en regardant les manifestations de la nation de nos jours, on aurait l'impression que ça existe depuis le 18e siècle, mais ce n'est pas le cas.
Est-ce que c'est à ce moment, en 1880, qu'on a adopté le drapeau tricolore? Ou est-ce que c'est un peu avant? Ou...
Alors, le tricolore existait. Je ne sais pas la date exacte, mais je sais que ce symbolisme bleu, blanc, rouge était déjà déployé au 18e siècle. Et vous vous souviendrez aussi de ce fameux bonnet phrygien, le symbole des révolutionnaires, normalement en rouge, mais avec une petite cocarde tricolore.
Magnifique, magnifique. Donc, bonnet que peut-être quelques-uns porteront ce soir. Ce serait...
Quelle bonne idée.
Peut-être que Marianne en personne se présentera au 5 à 7 coiffée de ce bonnet.
J'aimerais bien qu'elle se manifeste, Marianne.
Oui, en esprit et peut-être qui s'est incarnée au milieu de l'assistance.
Claire Carlin.
On sait jamais, c'est possible. Claire Carlin, présidente sortante.
Sortie.
Voilà, depuis peu de temps, succédée par...
Alyssa Parker.
Donc, à la tête de l'Alliance française. Personne qu'on pourra connaître, dont on pourra faire la connaissance, justement, ce soir, à ce rassemblement Bastille Day. Claire Carlin, grand merci et à très bientôt.
Merci à vous, Alexis.
Merci à tous les auditeurs d'avoir suivi cette édition des 13 et 14 juillet. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Mon nom est Vanessa et vous écoutez CILS FM.
Bonjour, ici Élise-André Héroux, auteure du roman Mara M. Cette semaine, je suis l'invitée d'Amélie Boivin-Enfield à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
Samedi de lire, ce samedi 17h et en rediffusion dimanche 11h.
Bonjour, je m'appelle Dalton et vous écoutez CILS FM à Victoria.
Avec le feu de mes 20 ans, je me foutais bien du temps. Le temps qui passe à cet âge-là, on n'y pense même pas. J'étais électrique, même avec une guitare acoustique. Dans les bars, je mimais Elvis Capozzo devenait Memphis. Les filles s'y croyaient vraiment, le twist éloignait leur tourment. J'étais électrique, même avec une guitare acoustique. Oh, je chantais des je l'ai des mal. J'inventais l'amour à tous les soirs. Je donnais la mort entre deux bois. Adieu, un truand, un soldat. Sur la scène, j'étais tout ça. J'étais électrique, même avec une guitare acoustique. Un Roméo dans la basse-cour qui pour charmer crie au secours. À chaque nuit, un nouveau lié au matin, un homme qui fuit. J'étais électrique, même avec une guitare acoustique. Hier je t'ai vu au centre d'achat. Je me suis vu te tenant le bras. T'étais si belle, encore plus. rêve, que du temps révolu où tu étais seule, qui m'attendait sans faire de drame, qui fermait la lumière pour cacher ses larmes. La chandelle le feu de paille de la paix, mes jours étaient sans soleil, j'étais électrique, même avec une guitare acoustique, j'ai touché le fond à fond de train, frappé le mur du lendemain, cocorico, beaucoup trop tôt, 31 ans, perdu des dents, j'étais électrique, même avec une guitare acoustique. Je chantais des oh, 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 j'ai fait des balles, oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La voix de votre communauté.
Bonjour, je m'appelle Olivia et vous écoutez CILS FM à Victoria.
Allô la planète avec Chapka.
Et c'est reparti, bienvenue, bonjour monsieur, dame, dans Allô la planète, l'émission qui discute avec des gens qui sont dans le monde. Et voilà, tout aussi simple que ça. Où que vous soyez, en France, en Europe ou ailleurs, vous nous laissez un petit message sur la page Facebook d'Allô la planète ou via le blog. Et puis on vous rappelle, on vous recontacte. Alors aujourd'hui, on a prévu plein de gens. Et pour l'instant, on ne sait pas qui marche et qui marche pas. Il me regarde avec son œil un petit peu inquiet, Fred, en disant non, mais bon, ça va marcher. Bon, donc je peux pas vous dire qui sera là, mais on verra bien ce qui se passe. En tout cas, ceux qui sont là, c'est Claire et Jérémy.
Allô la planète avec Eric Lange.
Bonjour Claire, bonjour.
Oui.
Je sais pas si Jérémy
bonjour,
est là.
Eric.
Jérémy est là, non?
Non, c'est encore que moi.
Comment ça va? Alors vous êtes revenu?
Eh ben oui, on est revenu. C'était pas trop prévu, mais on va repartir très vite.
Vous êtes où là?
Là, on est revenu à la maison.
Ouais,
c'est où? À Bordeaux.
À Bordeaux, d'accord.
Et on était en Papouasie juste avant, pendant un mois.
Alors attends, moi si je me souviens bien, on s'est parlé il y a quelques mois, vous étiez dans un bled paumé en Australie, loin de tout, 80 km ouais. De piste pour rejoindre le premier bled. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je sais plus.
On travaillait avec des scientifiques qui étudiaient les tortues.
Ah oui, voilà, c'est ça, vous étudiez les tortues, ouais, au milieu de rien.
Ouais.
Bon voilà, on vous a laissé là-bas avec vos tortues au milieu de rien. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, on a passé 3 mois là-bas à faire des vidéos,
ouais,
qui vont bientôt sortir sur la page du programme des tortues et tout ça, pour un petit peu défendre la nature du coin et tout ça, parler un peu de l'écosystème et tout.
Mmh.
Et
pourquoi?